Excusez-moi, moi j'aimerais rebondir sur les mesures d'accompagnement que le mécanisme en soi met en place pour soutenir la participation de la société civile. S'il prévoit que comment dire, la société civile joue un rôle prépondérant dans le processus, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement indépendamment des autres institutions, mais au niveau du mécanisme en soi?
Au niveau du mécanisme lui-même, il n'y en a pas. Donc c'est à nous-mêmes de les trouver. Certaines institutions du système des Nations Unies peuvent parfois fournir un financement occasionnel en fonction de leur mandat et de leur engagement dans le pays concerné. Une des agences qui a financé... Alors, ok. Josh vient de me dire que le Fonds volontaire des Nations Unies pour les populations autochtones, c'est ça, a quelques financements pour la participation d'ONG autochtones à l'examen périodique universel de leur pays. Je sais que dans certains cas, le programme des Nations Unies pour le développement finance la participation ou la coordination de certaines ONG. Ce que je proposais aussi, c'est de prendre contact avec certaines ambassades étrangères dans votre pays afin qu'elles financent certaines activités au cas par cas. Mais encore une fois, il n'y a pas de mécanisme structurellement conjoint de soutien financier à la société civile pour la participation à l'examen périodique universel. Ça n'existe pas de manière systématique et au niveau du système dans son ensemble. C'est comme ça. Ceci dit, le PU est peut-être le moment où certains des partenaires institutionnels internationaux, des Nations Unies ou diplomatiques, peuvent être intéressés à financer certaines activités au cas par cas. Voilà, encore une fois, ma réponse n'est pas pleinement satisfaisante, mais j'espère que ça peut aider à la recherche. Alors, ici...
Voilà, je vous remercie. Vraiment, je trouve que les stratégies que vous avez développées pour mobiliser la société, je suis complètement, carrément en phase avec cela. Mais j'aimerais poser une question. C'est un peu par rapport aux pays qui vont examiner. Durant le premier cycle, est-ce que ce sont les pays qui ont eu à examiner qui seront là également pour formuler des recommandations à l'endroit du pays lors du second cycle? Ou bien est-ce qu'il y aura, c'est un peu pour arriver à faire le suivi entre les recommandations formulées lors du premier cycle et celles qui seront peut-être formulées au second. Est-ce qu'il y aura d'autres pays aussi qui vont venir s'ajouter? L'autre question, c'est un peu savoir à quel moment du processus on peut connaître les pays, au cas où il y aura d'autres pays qui vont s'ajouter, à quel moment on peut connaître les pays qui vont examiner de façon à pouvoir approcher les ambassades. Merci.
Est-ce que ce sont les mêmes États que lors du premier cycle? En fait, tous les États sont autorisés à s'inscrire sur la liste des orateurs pour l'examen périodique universel. Désormais, des efforts ont été faits pour accommoder l'ensemble des personnes qui s'inscrivent sur la liste des orateurs, ce qui n'était pas le cas lors du premier cycle. On peut s'attendre assez logiquement que les États qui ont le plus d'intérêts stratégiques dans vos pays respectifs participent de fait au deuxième cycle. Donc s'ils ont participé au premier, on peut largement attendre à ce qu'ils participent au deuxième cycle. Ça peut être une des méthodes d'analyse. Mais il est vrai que tout autre État qui n'a pas participé au premier cycle pourrait participer au deuxième cycle. De même, certains États qui auraient participé au premier cycle pourraient décider de ne pas participer au deuxième cycle. Donc c'est un peu difficile de donner une réponse absolument précise, mais je pense que comme vous connaissez bien votre pays, ces relations bilatérales avec d'autres partenaires régionaux et internationaux, assez clairement vous pouvez vous-même dresser une liste des États qui seraient intéressés à participer à l'examen périodique universel. La vérité, c'est que beaucoup d'États qui ont de fait participé au premier cycle souhaitent participer au deuxième examen afin de généralement faire un suivi de leurs propres recommandations ou de poursuivre leur engagement. À partir de quel moment est-ce qu'on dispose de la liste elle-même des États qui vont parler? Je pense qu'on le saura demain, c'est ça? On saura la liste demain. Ok, l'inscription sur la liste des orateurs sera fermée aujourd'hui à 18h. Donc à partir de demain, en cours de journée, je pense qu'on aura sur l'extranet de l'examen périodique universel la liste, voilà, le premier orateur sera tiré au sort au cours de la journée de demain, puis ensuite on aura la liste complète de qui va parler sur chacun des examens périodiques universels des deux prochaines semaines. Donc, ceci dit, c'est assez inutile pour vous parce que le lobbying pour le PU doit se faire un peu en avance. Hein. Ça ne se fait pas la veille du début du groupe de travail, ça se fait dans le mois qui précède, en général entre 3 et 5 semaines avant le débat. C'est à ce moment-là où les États commencent à rédiger leur contribution. Et les États qui s'inscriront parce qu'ils auront déjà rédigé quelque chose. Donc le lobbying sur le fond sera un peu tardif à partir du moment où on connaît la liste. Mais normalement, à partir de demain ou au plus tard lundi matin, vous devrez savoir l'ensemble des États qui parleront sur votre propre groupe. Mais encore une fois, je pense que le lobbying peut se faire de manière assez créative. Lorsque vous demandez des rendez-vous à des diplomates pour leur parler de l'EPU, effectivement, ils ne vont accepter un rendez-vous que s'ils estiment qu'ils vont parler sur votre cas. Donc, nous avons fait du lobbying avant l'EPU de l'Arabie Saoudite, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, certaines délégations nous ont dit ben, ça ne sert à rien de se rencontrer puisqu'on a décidé de ne pas s'inscrire sur l'Arabie Saoudite encore cette fois-ci. À l'inverse, certaines délégations qu'on a rencontrées sur la question des droits des migrants à Malte en particulier des délégations ouest-africaines, nous ont dit ben, après cette réunion, on va décider de s'inscrire sur la liste des orateurs pour ce pays alors qu'on n'en avait pas forcément l'intention. Donc c'est, le lobbying reste assez ouvert et on peut essayer de convaincre des États à s'inscrire. Et ceux qui clairement ne souhaitent pas parler nous diront très simplement que ce serait une perte de temps pour eux comme pour nous de se rencontrer et de parler. Donc approchez les délégations le plus possible, celles que vous pensez, celles pour lesquelles vous estimez qu'il y aura le plus d'influence sur votre gouvernement. Et puis, en fonction de leurs réponses, vous verrez assez rapidement s'ils souhaitent s'engager ou pas.